bien, c'est le grand bluff de la génétique. Et dans, au-delà de la génétique, c'est évident, tout le monde le sait maintenant, qu'on peut avoir son génome pour 300 euros, et après, à quoi ça sert? À faire marcher la boîte qui fabrique le génome, peut-être, et encore.
C'est entretenir l'angoisse.
Plus on a été dans la précision de ce génome, plus on s'est aperçu que non seulement ça ne résolvait aucun problème, et que ça faisait surgir un nombre considérable de problèmes jusque-là méconnus, non pas inconnus, mais méconnus, et que c'est vrai pour la génétique, mais que c'est vrai pour toutes les démarches, c'est vrai aussi pour l'équilibre du corps humain dans son entier. Vous savez tous quelle est la place, sans doute un petit peu mode, que prend actuellement le microbiome intestinal. C'est des choses qui étaient connues de façon très globale à la louche il y a déjà 50 ans. Ça marchait très bien. Maintenant qu'on essaie de le connaître à la bactérie près, on s'aperçoit que ça ne marche pas mieux, on n'a pas davantage de solutions, et au contraire, ça a créé des problèmes. En fait, on est en train de découvrir l'eau tiède ou l'eau froide, dans la mesure où le vivant, c'est quelque chose de très compliqué, que ce qui importe avant tout pour nous tous individus, comme nous tous société, ce sont les équilibres qui nous régissent, ce sont les milieux auxquels nous sommes confrontés et qui agissent sur nous, et qu'il y a là une quantité infinie de combinaisons, d'associations favorables ou défavorables, d'antagonismes ou de synergies qui rendent toute hypothèse, espoir de médecine dite de précision, de médecine dite personnalisée, comme un grand bluff qui fait marcher un certain commerce, qui fait marcher certaines carrières, bien entendu. Tout ça, ça fait partie de l'humanité. Mais il faut être conscient que la grande découverte de ces 30 dernières années, c'est que ce qu'on croit simplifié, ce qu'on croit simplificateur, est bien souvent complexificateur que simplificateur, et que rien ne remplace une vision qui se veut globale, holistique, qui essaye de prendre un petit peu de recul par rapport à l'ensemble des facteurs sur lesquels, auxquels nous sommes confrontés. C'est un petit peu ça aussi la réflexion de Jean-Claude, et je vous en parle parce que j'ai eu l'occasion il y a pas très très longtemps d'en discuter un peu avec lui.
Est-ce que je peux ajouter un mot? J'aurais pas mis, on en a un peu parlé au téléphone quand il nous a envoyé le diaporama. Moi je lui ai dit, tu mets pas grand bluff. Et Jean-Claude, il aime bien les formules chocs. Je lui ai dit, mais grosse manœuvre.
C'est une formule chocante.
Je dis, tu mets grosse manœuvre du docteur Frézaquier. Je ne sais pas si je prononce correctement son nom.
Frézaquier.
C'est un honorable médecin.
C'est un cardiologue.
C'est le médecin conseil de Antenne 2.
Voilà. Oui, mais médecin.
Et quand tout
le monde. Si, il est journaliste médecin.
Fléchit. Je sais qu'il est médecin. Aux yeux des dominants. On convoque le docteur Frézaquier avec un
Frézaquier.
Il avait un œuf, hein?
Frézaquier.
Frézaquier,
le nom de papillon, il vient annoncer un nouveau paradis. Non, mais vous savez, c'est très sérieux du point de vue idéologique. C'est-à-dire, quand les gens fugissent un peu du moral, il vient vous ouvrir une perspective. Chaque fois, il y a une innovation, une nouveauté, une promesse magnifique. Mais sa ligne directrice, c'est la génétique est porteuse de toutes les connaissances et de tous les possibles. C'est ça l'intérêt. Et je crois que ça mérite un vrai débat, parce que c'est en train de beaucoup mûrir, et l'enseignement qu'on a reçu, c'était un peu ça. Deuxième élément, Jean-François Mattei, qui était
ministre de la Santé,
de génétique, il a été un ministre sacrificiel de la Santé. On lui a fait porter le chapeau et il s'est exposé à
tout ça. C'était Lacoste, tu
parles. Vaillamment, tout en étant un centre de chaleur, s'était vaillamment battu à l'Assemblée nationale pendant des années. Il a essayé de fédérer tout le mouvement associatif de l'époque pour qu'il n'y ait pas, pour que le génome, la structure du génome en cours de découverte, soit relève du domaine public. Vraiment, il s'était battu, hein, pour de vrai. Il faut reconnaître qu'il était à l'avance. Les gens étaient d'accord, le domaine public, ça résonne bien dans la tête des gens moralement sains, mais ça n'entraîne pas plus. Ben, il a réussi à emporter une loi qui préserve en France la propriété publique du génome. Mais, j'en laissais une porte ouverte, les applications sont libres.
Libres
et accessibles. Ça veut dire que l'industrie s'est très vite accommodée. Ok, nous avons un référentiel commun, structurel, et les applications, notamment des dérivés industriels et commerciaux, ont fleuri depuis. C'est vrai ce que dit Michel sur l'histoire. J'étais dans une honorable institution dont le président voulait nous imposer deux choses. La première, c'est installer dans le site de l'INCa un test prédictif qu'on avait eu gracieusement par les États-Unis, qui vous permet de faire un diagnostic personnalisé de vos facteurs de risque. D'accord ? Donc, ils l'ont mis, hein, c'est-à-dire, il a convoqué le système informatique, ils l'ont mis en place, etc. Système prédictif. Il y avait 75 questions, et qui vous établissait ensuite un profil de risque, scoré, hiérarchisé, etc. Et donc, il convoque les deux directeurs de département, j'étais un des deux, prévention et dépistage, pour dire, bon, ben maintenant, vous allez valider, manager tout ça. Bon, on lui a posé la question, toute simple et puis un peu responsable, c'est-à-dire, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, il dit, les gens n'ont qu'à faire comme moi. Tous les ans, Total Body Scan aux États-Unis, la famille comprise, pour faire l'état des lieux, il remplit le questionnaire, il fait l'état des prédictions, et il se met à faire la prière. C'est-à-dire que... c'est pas naïf tout ça, vous le savez bien. C'est-à-dire, la connaissance du risque implique une gestion du risque. La gestion du risque, elle est devenue une affaire du marché. Et c'est vrai que si on avait laissé filer ce questionnaire, d'abord on aurait accru l'angoisse, ensuite on aurait installé la prédiction, un peu fort là, hein, sur des bases très approximatives, et troisièmement, on aurait conforté le marché. Le marché de l'angoisse, le marché de l'incertain, le marché de l'existence accrochée à je ne sais quel lieu. C'est ça la problématique.
Et avec des réductions le jour du Black Friday.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques les plus sérieux, je me permets, pas un jugement de valeur, mais il y a beaucoup de gens qui ont pris leur distance vis-à-vis du modèle génétique et de la promesse de Fleischer. Et gérer ce que tu as dit.
Je voulais juste. Pour revenir à quelque chose de très concret, les effets iatrogènes de l'accès au génome aux États-Unis, de nombreuses femmes ont eu leur génome, elles ont payé $300, $400. Ça s'est traduit par une augmentation très importante des mastectomies prophylactiques inutiles qu'une étude états-unienne évalue à 50%. Voilà, sur la base d'anomalies trouvées dans le génome, ces femmes sont allées consulter des chirurgiens, des oncologues, et ça s'est terminé par des mastectomies inutiles, prophylactiques.
Les chirurgiens sont contents ?
Oui. Ah non, mais voilà. Mais bon, c'est quand même... Voilà, ça a des effets iatrogènes directs. Bon, on va donc... Oui. Et la tête des gens, ils n'auront
pas de lumière. Et tu as tout à fait raison. Non, mais c'est pas le
raisonnement. Oui, c'est ça.
C'est pas le raisonnement.
Oui, c'est.
La tête à 30 ans, ils ne montreraient pas de lumière.
Voilà.
On peut faire des sites de rencontres par génome.
Oui, on peut.
Alain, question de Frédéric Cosnard.
À la perte de votre propos, je suis dans un kit qui se l'a fait dire aux États-Unis et qui s'adresse aux femmes qui sont traitées pour un cancer du sein dans les stades où on ne sait pas encore si.
Avancé.
On n'a pas la garantie sur un traitement adjuvant par chimiothérapie.
Ah, c'est les oncopathes des X. on peut pas dx avec la récurrence corps.
Absolument. Et dans ce cas-là, le bénéfice apporté par ce test, c'est de d'éliminer de la population, d'éliminer la population des femmes qui ne tireront aucun bénéfice de la chimiothérapie.
Alors effectivement, les grands essais qui s'appellent Taylor X, qui ont été faits avec ce test, et qui montrent que quand on a un récurrence score inférieur à 20%, une majorité de femmes avant étaient mises sous chimiothérapie, et maintenant on sait que c'est prédictif de non-réponse à la chimiothérapie. Voilà. Alors moi le problème, moi je pense que c'est un test intéressant, on a un niveau très élevé pour son utilité, et tu fais bien de le souligner, et il faut voir le retentissement que ça a eu au Royaume-Uni. Moi j'étais, quand la publication de Taylor X est parue, tous les journaux faisaient leur gros titre, j'étais à Liverpool, tous les journaux, les tabloïds, les journaux sérieux faisaient leur gros titre, en France, rien du tout. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. La HAS a refusé de valider en disant qu'il y a manqué de niveau de preuve. Désolé, on a quand même des essais randomisés très importants. Et dans quelques temps, effectivement, je pense que ça sera remboursé. C'est un acquis parce qu'on s'est rendu compte qu'une proportion très importante de femmes qui ont un cancer du sang ne bénéficient absolument pas de la chimie adjuvante. Donc c'était bien de souligner.
Il n'y avait pas besoin du génome.
Non, on le sait.
Tout ce test doit-il être remboursé? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation, un médecin, un oncologue, qui est consulté, est-ce que ce n'est pas de son devoir d'informer la personne qui s'est prévenue qu'il existe ce test, qu'il n'est pas remboursé?
C'est pris en charge. Alors, les services d'oncologie sont pris en charge par l'hôpital où ils travaillent. Et quand ils décident. Il y en a qui proposent leurs propres tests. Alors, c'est des tests qui sont de même nature, ce qu'on appelle des tests de signature, mais ils n'ont pas été validés comme le contact DX ou comme l'autre qui s'appelle Mamaprint, qui était le test qui a été utilisé par l'IGR. Et qui est à peu près l'équivalent, enfin qui a fait aussi dans un cadre scientifique. Eux utilisent, Curie utilise ces tests, mais ces tests qui sont intéressants, mais on n'a pas le même niveau de preuve parce qu'il n'y a pas eu de grand essai clinique pour les valider. Voilà où on en est actuellement.
Derrière toi.
Je voudrais rappeler que nous, en tant que médecin, de donner à nos patients l'état de l'art et absolument pas l'AMM. Le fait que l'AMM est un engagement assez compliqué, ça n'est pas une fameuse en termes de raison.
De toute façon, je vais faire ça. Je vais peut-être monter le son.
Je vais voir si c'est pas quelque chose que je ne pas faire. Donc, à la question que tu nous as, la réponse est évidemment oui. Il y a d'ailleurs un médecin qui a été condamné parce qu'il n'avait pas présenté un traitement extrêmement onéreux à une femme porteuse de pathologie qui était femme de ménage et qui n'avait pas les moyens de se payer. Il avait considéré que puisque cette femme ne pouvait pas se payer, il préférait ne pas lui en parler. La famille a porté plainte et elle a gagné. Le médecin ne doit pas rentrer dans ces considérations. Je me permets de rappeler à ce propos-là, de l'AMM, qui est un de mes combats, vous l'aurez compris, que les préparations pharmaceutiques ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, et que la sécurité sociale ne rembourse que les médicaments de l'industrie. C'est-à-dire que si vous prescrivez ce qu'on appelle les préparations magistrales, elles ne sont pas remboursées. La sécu ne rembourse que ce même qui vend.
Non,
on le fait pour le bicarbonate de soude pour les